Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de nous suivre sur VOA Afrique et bienvenue dans l'Amérique, vous. Eric Manirakiza au micro depuis le studio 9 de La Voix de l'Amérique, mettant depuis Washington DC, Michel Joseph assure la mise en onde. Le sommet sur l'Afrique à Washington, réunissant une cinquantaine de dirigeants africains, a pris fin ce jeudi. L'administration Biden a annoncé plusieurs milliards d'aides pour les années à venir et entend surtout favoriser les échanges commerciaux. Un accord avec la zone de libre-échange continentale africaine a été signé. M. Biden a appelé aussi à un rôle accru pour l'Afrique sur la scène internationale. Nous en parlons avec nos invités. Karine Kaneza Nantulia, activiste des droits humains. Elle est directrice adjointe Division Afrique à Human Rights Watch. Bonsoir Karine.
Bonsoir Eric.
Le professeur Jean-Claude Jéréquet, docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions. Il est aussi analyste politique. Jean-Claude, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Au Sénégal, un lion de la Teranga, Ibrahima Kan, analyste politique et spécialiste de l'Union africaine. Ibrahima, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir aux autres invités.
Vous êtes un vrai lion de la Teranga.
Ah, certainement oui.
Encore une fois, bienvenue et merci de votre disponibilité. Je vais commencer avec vous, Ibrahima Kan. Quel regard portez-vous sur ce sommet? Est-ce qu'il sonne le retour des États-Unis sur le continent?
Certainement. Certainement, et je pense d'une meilleure façon, parce que vous savez que l'administration précédente, celle de Trump, ne s'est jamais intéressée à l'Afrique. Trump n'a jamais fait de visite en Afrique. En revanche, son prédécesseur avait montré le chemin et était allé pour la première fois pour un chef d'État américain à l'Union africaine pour vraiment essayer d'établir de nouvelles relations avec les États africains, et je pense que Biden, dans une sorte de continuité, commence maintenant à poser les jalons d'une nouvelle relation entre l'Afrique et les États-Unis, mais qui devrait être à l'avantage de l'un et de l'autre. Je pense que c'est très important.
Monsieur Biden, qui a par ailleurs promis de se rendre en Afrique subsaharienne l'année prochaine. Karine, à Human Rights Watch, vous avez voulu faire de ce sommet celui des droits de l'homme. Pourquoi et quel a été le résultat?
Merci Eric et bonsoir Ibrahima et mon autre co-panéliste. Alors, à Human Rights Watch, nous avons amené quand même un regard et une analyse un tout petit peu plus mitigée. Nos recommandations principales, comme vous venez de le dire, Eric, s'articulent autour d'une politique basée, centrée sur le respect de la règle de droit et les droits de l'homme. En marge du sommet, nous avons organisé un sommet centré, articulé autour des idées et de la voix des défenseurs des droits de l'homme de la région, du continent, qui sont venus et des membres de la diaspora. Et nous avions par exemple des représentants du Cameroun, de l'Égypte, du Libéria, du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan, du Zimbabwe. Pourquoi le faire? Parce que justement, ce sommet, le sommet États-Unis-Afrique, qui d'ailleurs quand même rentre un petit peu dans la... C'est le deuxième après celui de 2014 que l'ancien président Barack Obama avait organisé. Est vraiment une opportunité pour le gouvernement américain de renforcer son partenariat et son dialogue avec les chefs d'État africains. Et comme vous et moi, et mes autres co-panélistes le savent, nous avons quand même, en termes de droits de l'homme, des crises profondes et des défis auxquels ces mêmes chefs d'État doivent répondre et qui ont des répercussions graves sur les défenseurs des droits de l'homme. Et donc nous avons voulu créer une plateforme, forger vraiment, comment dire, faciliter une discussion qui n'était pas au centre des préparatifs du sommet États-Unis-Afrique. Et nous avons eu la chance, par exemple, d'avoir l'honorable, son excellence, Grâce à Machel, qui, comme vous le savez, une voix quand même renommée sur les questions de démocratie, sur les questions du genre, sur le leadership éthique, hein, et qui était notre oratrice principale, et qui le dit d'une très belle manière, en fait. Et je cite, son excellence Grâce à Machel a dit durant justement notre sommet que la présence et les actions des défenseurs des droits de l'homme amènent un visage et une voix qui est de plus en plus difficile à entendre, qui se fait entendre dans un contexte de recul démocratique sur le continent. Et donc voilà, en peu de mots, ce qu'est notre lecture, je pourrais parler un petit peu plus, mais peut-être
on va y revenir, Karine. Je signale que M. Biden a annoncé débloquer 75 millions de dollars pour renforcer les institutions démocratiques en Afrique, ainsi que 100 millions de dollars en assistance sécuritaire. Jean-Claude Biden a dit, je cite, « L'Afrique doit être à la table dans chaque salle où l'on discute des défis mondiaux et dans toutes les institutions », en citant expressement le Conseil de sécurité de l'ONU et le G20. Est-ce que le président Joe Biden s'oppose à un porte-voix de l'Afrique?
Je pense qu'il est trop tôt pour juger. Attendons que, n'est-ce pas, les actes suivent les discours. Mais je crois que déjà, c'est une bonne chose qu'il ait dit cela. Et moi, je ne sais pas ce qu'il avait précisément en tête, mais je crois que ça fait plusieurs années que les Africains demandent quand même à siéger au Conseil de sécurité de l'ONU, ou du moins qu'on revoie l'organisation ou la marche de l'ONU, parce que, disons, depuis la création de l'ONU, disons, depuis la transformation de la Société des Nations en ONU, beaucoup doit couler sous le pont. Et donc, je crois qu'il est important de faire vraiment une mise à jour de l'ONU en tenant compte, n'est-ce pas, du contexte international, hein, du poids, n'est-ce pas, de l'Afrique. Voilà, donc je crois que si Biden pense aussi à ça, c'est-à-dire donner, n'est-ce pas, une place à l'Afrique au sein de l'ONU, moi, je dirais, enfin, bravo. Hein, voilà. Donc, je le répète, il est trop tôt pour juger. Attendons que les actes suivent les discours.
C'est une initiative qui a été immédiatement saluée par le président sénégalais Macky Sall, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine. Jean-Claude Biden a dit aussi ceci: quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent, le monde entier réussit. Est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec lui? C'est quand même tardif de le constater.
Oui, je suis d'accord avec lui, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Pendant longtemps, justement, les gens ont cru que, quand je dis les gens, c'est-à-dire les Occidentaux, ont cru que eux, ils pouvaient faire leur bonheur sur le dos, hein, n'est-ce pas, des Africains. C'est-à-dire, pendant que eux, n'est-ce pas, étaient heureux, nous, on souffrait. Et pendant longtemps, ils ont pensé comme ça. Alors, si aujourd'hui, ils pensent qu'il faut changer, n'est-ce pas, cette façon de voir, tant mieux. Parce qu'effectivement, moi, je pense que nous sommes dans un monde, où nous sommes dépendants les uns des autres. Donc, c'est ensemble qu'il faut avancer. C'est ensemble qu'il faut progresser. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, construire son bonheur sur le malheur des autres. Donc ça, vraiment, je pense que si Biden met ça en acte, hein, en pratique, mais il aura gagné, et je veux dire que ce sera un grand pas, quoi, pour l'Afrique et pour les États-Unis.
Ibrahima Kan, quel est maintenant cet intérêt vis-à-vis de l'Afrique? C'est un continent qui est très sollicité. On voit le Japon, la Chine, la Russie. Le continent devient, disons, la petite des grandes de ce monde.
Oui, peut-être les Américains découvrent cela. Mais je pense que ce qui a vraiment ouvert les yeux aux Américains, c'est la guerre qui est en train de se dérouler en Europe. Ça a montré non seulement la faiblesse de l'Occident par rapport à un certain nombre de ressources qui sont fondamentales pour le fonctionnement des économies européennes et autres, occidentales, pardon, mais en plus que ce monde, au moment de l'éclair, qu'il y a lieu de repenser les relations à l'intérieur de ce monde-là. L'Afrique, que l'on considérait comme moins que rien, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue, et aujourd'hui, avec ses 55 membres, un enjeu important en termes de concertation. Le président Biden cherche à ce que l'Afrique ait une place pour ses 21, demande à ce qu'on ait des postes, de représentation permanente au Conseil de sécurité. Je pense que c'est parce que l'Amérique cherche à travailler l'Afrique, l'Amérique cherche à avoir des relations particulières en termes de ressources et autres avec le continent africain pour pouvoir tirer un maximum de profit de ces relations. L'Amérique avait eu une attitude plus ou moins de dédain vis-à-vis de l'Afrique, mais la Chine aujourd'hui, qui est pratiquement le compétiteur le plus important des États-Unis, a pris une place énorme sur le continent africain. Et ça joue dans les relations internationales. Je pense que l'administration américaine est en train maintenant de réévaluer sur la base de ces événements dont je vous ai parlé, les rapports qui doivent être établis avec certains des acteurs dans le futur des relations internationales pour que l'Amérique puisse encore compter les relations. Important dans ça. J'avais cité tout à l'heure le président Macky Sall. Répondant au discours de Biden, qui demandait à ce que les Africains choisissent entre le mal et le bien, il a dit, non, c'est pas envie de le dire, en termes bien sûr diplomatiques, qui doit être notre ami. Et je pense que cet élément à lui seul montre aujourd'hui que les relations internationales ont changé et que l'Afrique aussi entend tirer un meilleur profit et au niveau de la construction et avoir une place importante. Et les Américains semblent être les premiers à commencer à négocier avec les Africains sur ce terrain-là. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça montre une fois que les Américains ont pris conscience des nouvelles règles et que les Américains entendent être parmi les premiers à tirer les bénéfices de ces nouvelles relations en construction, d'autant que l'Occident, enfin l'autre partie de l'Occident, l'Europe, la France en premier, sont en train vraiment de perdre du terrain en Afrique. C'est vraiment intéressant cette période des relations entre l'Afrique et l'Occident parce que ça montre que quelque chose est en train de bouger et pour une fois pour le bien des États africains.
Jean-Claude, vous publiez très souvent des papiers sur des relations de différentes puissances avec l'Afrique. Lorsque vous analysez ce nouveau partenariat renouvelé entre l'Afrique et les États-Unis, quelle est la place qu'elle occupe ? Qu'il occupe plutôt ce partenariat ?
Bon, je crois qu'il ne faut pas se cacher les choses, hein. Les États-Unis se réveillent, parce que c'est vraiment le mot qu'il faut employer, se réveillent parce que ils veulent contrer l'influence de plus en plus grandissante de la Chine en Afrique. La Chine construit des stades, des autoroutes, des aéroports, hein, depuis quelques années, ce que les Américains donc ne font pas. Et donc, les États-Unis voilà, se réveillent, se disent que il ne faut pas laisser la Chine et puis maintenant la Russie prendre les marchés, tous les marchés en Afrique. Je crois qu'il y a ça. Il faut que nous ayons ça en tête. Voilà. Maintenant, donc ce partenariat-là, je crois que on verra, hein, on verra concrètement si les États-Unis ont changé, ont vraiment changé, n'est-ce pas, de politique. Donc c'est le temps qui nous le dira, hein. Time will tell us. Donc pour l'instant, bon, nous sommes au niveau des intentions, hein, des projets, mais il faudra que, n'est-ce pas, les États-Unis montrent par des actes concrets que ils sont prêts vraiment à avoir avec l'Afrique un partenariat gagnant-gagnant. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je crois que c'est ce que la Chine et, n'est-ce pas, la Russie essaient de faire avec les Africains. Partenariat gagnant-gagnant. Donc on n'est plus dans cette histoire de, voilà, on pose des conditions, hein, comme on a vu avec Obama lorsqu'il est passé en Afrique. Hein, je crois notamment au Kenya, au Sénégal, où il disait que voilà, on est prêt à vous aider, mais à condition que vous acceptiez, n'est-ce pas, les mariages gays. Je crois que on n'a pas besoin de ça. Et la Chine, la Russie ne disent pas ça, ne posent pas de conditions.
Mais on a besoin de la bonne gouvernance et des droits de l'homme et du respect des droits de l'homme et du respect des démocraties, des mandats présidentiels surtout.
Oui, mais on a besoin de démocratie, mais ce n'est pas, je veux dire que ce n'est pas. Ce n'est pas en bombardant, par exemple, tu vois, non, tel ou tel pays qu'on installe la démocratie, puisqu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait en Libye. Est-ce que la Libye, aujourd'hui, elle est démocratique? Ils l'ont fait en Irak avant. Est-ce qu'en Irak, il y a la démocratie? Donc, je veux dire que cette voie-là, c'est pas une bonne voie, ça.
Il y a aussi l'Ukraine qui est bombardée, M. Jereke.
Oui, mais aujourd'hui, nous parlons des États-Unis. Et moi, sincèrement, j'aurais voulu... parce que, bon... Ça me dérange un peu, tous ces chefs d'État africains, hein, je sais pas, les 49 ou les 50, là, qui viennent hein, ici ou à Moscou ou je sais pas, à Tokyo ou à Pékin, ça me dérange. Parce que tous ces pays-là, hein, le Japon, les États-Unis, la Russie, la Chine, hein, voient très bien que l'Afrique, n'est-ce pas, regorge de beaucoup de richesses, a beaucoup, n'est-ce pas, de ressources naturelles. Donc ces pays-là ont besoin de ça. Alors, moi, je pense que les Africains, au lieu de courir, n'est-ce pas, de courir à ce sommet-là, vraiment, s'ils avaient un peu de dignité, ils devraient attendre que ces pays-là viennent plutôt en Afrique, hein, au sein de l'OIA, Addis Abeba, hein, disent, voilà, on a besoin de telle ou telle richesse minière, et les Africains, à ce moment-là, allaient poser des conditions, dire ce qui arrange leur peuple. Mais ce n'est pas à eux de courir. Donc, moi, sincèrement, ça me dérange. Le fait que les chefs d'État africains se déplacent comme ça tous, pour rencontrer le président d'un pays. Moi, ça me dérange.
Karine, M. Biden a égrené devant ses pairs africains une série d'aides américaines censées refléter l'engagement renouvelé de Washington sur l'Afrique, soutien au maintien de la paix et la sécurité, à la bonne gouvernance ou aux droits de l'homme. Plus d'un pays en Afrique est critiqué dans ce domaine. Est-ce que cet engagement du président des États-Unis répond à ces préoccupations, Karine?
Merci. Non, mais en fait, je pense qu'en termes d'engagement, il faut aussi se poser la question quelles sont les parties prenantes dans cette discussion. La question va au-delà, justement, d'une aide ou d'un appui budgétaire. Et là, je me réfère à ce que les autres panélistes viennent de dire, parce que il faut aussi se rappeler que les États-Unis, on dit qu'ils se réveillent, mais ils sont aussi préoccupés. Ils sont en train de dialoguer avec l'Afrique aujourd'hui dans un contexte de multilatéralisme fracturé et très fragilisé. On vient de parler de la Chine, mais ce n'est pas que la Chine. Il y a l'Inde, il y a le Brésil, il y a la Turquie, il y a les Émirats arabes. Il y a plusieurs pôles, en fait, de pouvoir que l'on voit émerger. Mon frère qui parlait de « il faut attendre, il faut voir », oui, mais on peut déjà réfléchir quels seront les indicateurs. Et c'est là où j'en reviens à ta question, Eric. Quels sont les indicateurs? Il va y avoir un test, il y a déjà un test. L'Afrique se retrouve dans un contexte de discussion, de narratif, de récit autour de toute cette question, de la question de la réparation, du racisme, de la discrimination, de l'héritage colonial. Un exemple très concret, nous parlons de cette, nous analysons ce sommet il y a quelques semaines au Conseil des droits de l'homme à Genève. Il y a une résolution, il y avait une série de résolutions, l'une sur la Russie, l'autre sur la Chine, l'autre sur l'Éthiopie et une autre sur une résolution préparée par les États africains sur l'impact du racisme. Le même gouvernement américain et ses partenaires ont refusé, ont voté non contre cette résolution. C'est un geste. Et il ne s'agit pas seulement de se focaliser, ce qui est très bien, de se focaliser sur la relation secteur privé d'un investissement au niveau de tout ce qui est cyber security, la transition énergétique, etc. Ce sont des questions essentielles. Mais sinon, il y a des jalons, les premiers jalons, les petits tests qui justement vont signaler sur l'honnêteté, l'investissement et la préoccupation première justement dans cette relation États-Unis-Amérique. Et puis finalement, il y a eu, nous remarquons quand même une action manquée. Et là, je me réfère encore une fois à ce parallèle que l'on fait entre les États-Unis et la Chine. La Chine et l'Afrique ont institutionnalisé leurs relations. Il y a ce qu'on appelle le FOCAC, le programme Chine-Afrique. Ils se rencontrent, c'est institutionnalisé. Cette relation, ce n'est pas des sommets ad hoc, mais c'est vraiment une relation qui a été institutionnalisée. Il y a un forum, ils se rencontrent, je pense, tous les 3 ou 4 ans. Cela n'a pas été annoncé, par exemple.
Karine, en quelques secondes, vous avez parlé de cette résolution. Le président Biden a reconnu le péché originel de l'esclavage ici aux États-Unis. Il a par ailleurs, je voudrais que vous répondiez à cette question, il a réuni à la Maison-Blanche les dirigeants de 6 pays africains où se tiendront l'an prochain des élections que les États-Unis entendent surveiller de près. En 20 secondes, votre point de vue.
Je pense qu'il est très important que les États-Unis continuent à engager, à dialoguer avec des gouvernements qui vont traverser des transitions politiques. Il est encore plus important que le gouvernement américain, justement, dialogue avec les parties prenantes qui sont les défenseurs des droits de l'homme, les organisations de la société civile et les coalitions régionales qui, non seulement s'organisent pour observer ces élections, mais qui souvent se retrouvent victimes des attaques et des représailles de leur propre gouvernement. Et qu'il y ait un mécanisme pour réguler justement cette relation, comme d'autres blocs le font, comme l'Union européenne, qui a l'Union européenne et ce dialogue entre l'Union européenne et les sociétés civiles africaines. Donc, des mécanismes, une institutionnalisation qui demande à être établie.
Merci Karine. Une aide de 2,5 milliards de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique a été conclue et un partenariat stratégique avec l'Union africaine à court et long terme pour assurer la pérennité agricole sur le continent. L'administration Biden entend dégager 55 milliards de dollars pour l'Afrique d'ici 3 ans dans des domaines aussi variés que le numérique, les infrastructures, la santé ou encore la transition énergétique. Il nous reste une minute avant la fin de cette émission. Je voudrais accorder 25 secondes à chacun. Les dirigeants africains se sont montrés globalement satisfaits de la tenue du sommet. Y a-t-il de quoi s'emballer ou c'est un sommet de plus? Ibrahim Akane, 25 secondes. Jean-Claude? Karine, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends.
Y a-t-il de quoi s'emballer?
On attendra.
Jean-Claude, vous nous entendez? Y a-t-il de quoi s'emballer?
Il faut attendre qu'il y ait deux choses, un engagement et un dialogue.
Merci. Merci Karine pour votre contribution. Merci également à Ibrahim Akane et à Jean-Claude Jereke. On a eu un petit problème de connexion téléphonique vers la fin. Merci à Michel Joseph qui a assuré la mise en onde, Eric Manuel qui a dit. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.